Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut à tous, c'est Adrien, soyez donc les bienvenus pour ce nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo, un épisode très attendu, forcément un sujet qu'on ne pouvait plus éviter. Et oui, en 2020-2021, les Knicks de New York sont de nouveau une équipe qui compte dans le paysage basket NBA. Et pour donc parler de ce retour en grâce de la grosse pomme, c'est le retour d'un format, également format classique de Dunk Hebdo maintenant on peut le dire, celui de la reprise en main du front office par l'équipe. Et avant de développer tout ça, je vais endosser le rôle de propriétaire donc des New York Knicks, et ce sera celui d'un Dola nouvelle génération hein, quand même. Et je vais vous présenter les deux autres membres du front office qui nous rejoignent aujourd'hui. Tout d'abord donc un general manager nouvelle génération, lui aussi un homme de goût mais avec un cruel manque de respect pour ses aînés. Et je parle surtout de rap, et c'est Ben. Comment ça va, Ben ?
T'étais obligé d'amener ça dans le podcast, Adrien. Ça va. Ça va très très bien. Bah, content de refaire ce format et content d'accueillir les sauf aux morts maintenant, bientôt troisième année dans ce format, parce que c'est la première fois qu'on le fait depuis votre arrivée, donc c'est cool.
C'est vrai, on va se prêter au jeu et également donc avec le troisième membre de cette réunion du board des Knicks. C'est celui qui sera donc le plus proche des joueurs, celui qui exploitera au maximum les capacités personnelles de chacun. C'est Coach Madian. Comment il va, Madian ?
Ça va, en direct de Houston, Texas. Prépare le match de ce soir, mais il y a un petit podcast à enregistrer avant.
Effectivement, un podcast à l'heure de la digestion du dimanche pour certains, mais au moins, comme ça, moi, je me sens au plus proche de mon rôle de propriétaire d'Enix. Donc, messieurs, avant de rentrer totalement dans nos rôles, je me permets de rappeler quand même le concept du podcast du jour pour nos nouveaux auditeurs, nouvelles auditrices. Dans ces épisodes donc de construction, reconstruction de franchise, les membres de l'équipe Dunk Hebdo se glissent donc dans les différents costumes du front office de l'équipe en question. Aujourd'hui donc l'Enix avec donc ma personne en tant que propriétaire, comme je le disais, Ben en GM, Madian en coach, afin d'essayer d'effectuer le bilan de la situation, d'anticiper la suite également. Et voilà, on va pouvoir attaquer ce nouvel épisode. Vous écoutez le podcast Dunk Hebdo et c'est l'heure de parler d'Enix. Bonjour messieurs. Merci d'avoir accepté donc cette réunion qu'on attaque sans plus tarder, puisqu'il va falloir que vous m'expliquiez d'abord ce qui se passe pour cette saison du côté de New York. On sortait d'une saison où on était le sixième pire bilan de la Ligue, on nous voyait encore en bas de tableau en début de saison, notre over-under était à 22,5 hein, du côté des parieurs de Vegas. Nous voilà aujourd'hui quatrième à l'Est, je vois nos fans sur les réseaux sociaux qui s'enflamment de nouveau pour notre équipe des Knicks. Alors j'entendais la semaine dernière notre responsable du scouting, Monsieur Guillou, qui minimisait un peu ses résultats. Monsieur le GM, qu'en pensez-vous de votre côté ? Que pouvez-vous me dire sur cette saison ?
Je suis assez d'accord. La surprise, je pense, si je suis parfaitement honnête et transparent, je pense que nous sommes sans doute la franchise qui a le plus profité des conditions sanitaires. Ça a été déjà expliqué par le coach Madian ici présent. Le fait que les joueurs des équipes adverses se rendent au Garden sans la foule, sans cette volonté de marquer les esprits, comme c'est souvent le cas, nous arrange, on va être honnête. Je pense aussi, il faut être honnête aussi, c'est une saison minée par les blessures, notre effectif a eu peu de blessures, et puis il faut aussi souligner le travail du coach qui a su, je pense, insuffler quelque chose. Après, ce qui nous réunit aujourd'hui, et c'est très important, il faut pas se voiler la face, on est actuellement quatrième à l'Est. Est-ce que l'année prochaine, on sera plus fort que les Hawks ? Non. Est-ce qu'on sera plus fort que les Hornets ? Je ne pense pas. Est-ce qu'on sera plus fort que les Heat ? Absolument pas. Plus fort que les Celtics ? Non plus. Donc, il faut se féliciter du travail qui a été fait, comprendre pourquoi on en est là, mais il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, je dirais, si vous me permettez, monsieur le propriétaire, que l'objectif, il est triple. Identifier les raisons du succès, identifier les joueurs qui en sont responsables, et donc qu'on va conserver, et surtout réussir à rendre le collectif meilleur pour la saison prochaine.
Justement, avant de revenir aux perspectives pour la saison prochaine, effectivement, on va devoir se fixer de nouveaux objectifs en prenant en compte cette saison. Parole à vous, mon cher coach, sur votre travail. Cette saison donc, qui était saluée par notre GM ici présent, que pouvez-vous nous dire quels sont les facteurs qui sont plus liés à un véritable travail de fond, basketballistique, ou peut-être plus à un peu de chance? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de cette saison jusqu'ici?
Je pense que déjà, on peut parler de la défense. On est quand même passé d'une équipe mauvaise défensivement à une équipe sans être dans les meilleurs. Hein. On pourra parler de ces facteurs évoqués par notre scout lors d'un précédent épisode. Néanmoins, notre défense est devenue beaucoup plus sérieuse avec collectivement des fondamentaux, les fondamentaux de base que j'ai pu appliquer dans toutes les franchises par lesquelles je suis passé. On a récupéré nos fondamentaux. Voilà. Maintenant, moi, il y a certains joueurs qui m'ont donné entière satisfaction et du coup que je souhaite reconduire. Il y a des joueurs sur lesquels, s'ils restent, j'en serais très heureux. S'ils venaient à partir, je pense qu'on pourra les remplacer. Je ne tiens pas forcément à les garder, on l'évoquera. Quoi qu'il arrive, au niveau du bilan de ce qu'on a fait cette saison, je pense que le plus important, c'est de se dire qu'on a quand même une fenêtre de danger. Il nous reste 9 matchs. On n'en a que 3 dans nos bases. On va enchaîner pas mal de matchs à l'extérieur contre des fortes équipes. Finalement, le match le plus facile est ce soir à Houston. Mais ensuite, nous enchaînons du coup, si je regarde mon board, nous enchaînons les Grizzlies, un peu plus prenable certes. Mais ensuite, Nuggets, Suns, Clippers, Lakers. Ça va être du coup une série difficile. Il faut absolument qu'on reste dans le top 6. Parce que ça risque d'être plus difficile si on était confronté à un play-in.
Justement, ça c'est une réflexion que je me faisais justement avec cette histoire. Donc parlons-en de ce shooting où nous sommes une des meilleures défenses, ou la meilleure même en pourcentage des équipes adverses à 3 points face à nous. Pour autant, il semblerait, d'après les rapports qu'on m'a envoyés, qu'on alloue beaucoup de tirs ouverts, de ces tirs à 3 points, également de tirs près du cercle. Alors effectivement, sur la saison, ça semble plutôt continuer de nous sourire, et tant mieux, hein, on peut continuer à compter dessus, mais pour des séries, pour les playoffs, ça risque d'être un facteur déterminant. Si l'équipe en face met ses tirs, quid de notre fond de jeu, de notre identité défensive, qu'est-ce qu'on peut espérer une fois cette qualification acquise, donc cette saison?
Je suis assez d'accord avec vous, il faut se qualifier en évitant le play-in, parce que je pense justement... En parlant de ça, j'avais cité les blessures, et le problème pour nous, c'est que beaucoup d'équipes qui sont parmi nos concurrents directs reviennent en état de forme. Je pense aux Celtics qui ont, en plus, certaines ont des pouvoirs ont des puissances de feu qui sont pas du tout les nôtres. Donc, je pense qu'on est devant une situation où il faut absolument aller accrocher le top 6, parce que, encore une fois, si on est honnête entre nous, on passe pas un tour, monsieur le propriétaire. Je pense qu'on va être honnête, on passe pas un tour. Et tout le cœur de notre discussion d'aujourd'hui, c'est de comprendre comment on va essayer de tromper nos fans en leur faisant croire que cette équipe-là était bonne et en ajoutant quelques petites touches pour que l'année prochaine, on réalise une aussi bonne saison, alors qu'en réalité, on sait parfaitement que celle-ci se rapproche beaucoup de l'anomalie. Que ce soit notre net rating ou beaucoup de stats avancées montrent que, oui, il y a eu des événements qui ont tourné en notre faveur, et malheureusement, sur une série de playoffs, je ne pense pas. Notre attaque est trop faible, elle est dans la mauvaise moitié de la NBA, donc il y a beaucoup d'éléments qui font que non, en playoff, ça risque d'être assez court, pour être honnête.
Bon, bah ouvrons cette discussion sur les éléments déterminant notre saison, les éléments de l'effectif. J'entends par là, je vous redonne la parole, monsieur le coach, justement, qui sont les joueurs à mettre en avant qui nous ont servi cette année à être, si on met de côté les anomalies statistiques, mais à retrouver une identité qui fait quand même notre succès populaire également cette saison, il faut le dire, on retrouve une certaine hype, comme on dit. Et donc quels sont ces joueurs sur lesquels on a pu compter, qu'on pourra retrouver également dans les playoffs peut-être pour nous faire des matchs de référence pour les années futures et surtout qu'on garderait l'année prochaine?
Moi j'évoque finalement deux joueurs qui pour moi Je souhaite les conserver dans mon 5 de départ. Et un troisième sur lequel je pourrais conserver un profil similaire. Je parle évidemment de Randle et Barrett, que je souhaite garder du coup dans le 5 de départ l'an prochain. Je pense qu'on Barrett est sous contrat rookie. Je pense que notre GM ne verra pas d'objection au fait de le garder. Et moi, je peux le faire jouer et ça ne me dérange pas de le faire jouer. Ça contribuera à son développement. Tout le monde s'y retrouve dans cette affaire. Pour Randle, il a su être le leader de cette équipe. Il nous a menés loin. Il a montré un potentiel qu'il n'avait pas en arrivant au New York Knicks. On a pu lui confier les clés du camion. Et clairement, je pense qu'il faut le conserver. Je sais que son contrat n'est pas totalement garanti. Je pense qu'il faut pouvoir lui proposer quelque chose et voir envisager un peu plus loin avec lui. Voilà les deux joueurs. Après, que ce soit à la main ou au poste 3, je n'ai pas de velléité particulière de conserver ces joueurs en tant que titulaires à ces postes-là. Je fais référence à Elfrid Payton et Reggie Bullock. Et au poste 5, j'ai fait jouer Mitchell Robinson. Malheureusement, il s'est blessé. Après, Nerlens Noel m'a apporté beaucoup de satisfaction. Si on peut le garder à un prix raisonnable, je pense qu'on ne trouvera pas beaucoup mieux au poste 5. Mais je sais que c'est un marché difficile, que peut-être que le joueur a envie d'être payé. Et si on ne trouve pas de solution qui convienne à notre GM, je lui ai confié dans une réunion précédemment que j'étais OK si on trouvait un autre poste pour remplacer, parce que je pense que c'est peut-être la valeur la plus facile à remplacer.
Très bien, avant de vous redonner la parole, cher GM, je voudrais ajouter une légère contrainte à cette histoire, effectivement, pour savoir si vous étiez d'accord avec ce que nous dit notre coach. Effectivement, on a quand même des joueurs, notamment les deux suscités, notre ami Julius Randle et RJ Barrett, qui sont devenus aussi des favoris de nos fans et que de mon côté, j'aimerais également garder, ne serait-ce que pour l'image également des New York Knicks dans les années qui arrivent.
Je vais me permettre de faire ma présentation dont je vous avais parlé. Vis-à-vis de notre franchise, je parlais d'une crise des 4 C. Qu'est-ce que sont ces 4 C? Compétitivité, confiance, cohérence, continuité. Alors pour moi, on est sur des considérations qui sont à plus ou moins long terme. La plus court-termiste, c'est la compétitivité. Voilà, ça fait plusieurs années, on n'avait pas joué les playoffs depuis 7 ans. Vraisemblablement, on va soit les jouer, soit aller dans un play-in qui pourrait être dangereux. Mais en tout cas, à ce niveau-là, on retrouve une certaine cohérence, qui est un autre des critères. Le deuxième critère, c'est la continuité. Notre franchise, elle paye quoi depuis des années? C'est le fait de constamment changer de cap. Il n'y a aucune continuité dans notre effectif. Et d'année en année, ça se ressent comment? Eh bien, actuellement, quand on va regarder notre effectif, messieurs, il y a très peu de joueurs, quasiment aucun d'ailleurs, qui est dans un contrat sur plusieurs années et qui n'est pas dans un contrat rookie. On n'a pas de joueurs signés sur plusieurs années et c'est un de mes objectifs durant cette free agency de le faire pour avoir ensuite des joueurs à échanger. Ensuite, quand je parle de cohérence, c'est un peu la même chose sur un plus long terme, c'est la capacité qu'on aura à d'année en année adapter notre projet. Et enfin, le plus important pour moi, c'est la confiance. On est une franchise qui ne re-signe pas ou rarement, voire jamais, pas depuis 20 ans, ses choix de draft. Je veux que quand notre franchise draft un joueur, l'agent de ce joueur puisse se dire, ah, ce joueur-là, dans 4 ans, peut avoir un contrat. Je veux que les free agents des équipes qui arrivent chez nous, notamment avec Julius Randle, puissent se dire, ah, si je réussis une bonne saison chez les Knicks, je peux être payé, prolongé à hauteur de mon niveau. Donc, selon moi, c'est sur ça qu'on doit travailler. Justement, on en parlera plus tard, par rapport à un joueur comme Julius Randle, pour moi, ça impose de lui proposer une extension qui est juteuse. Alors, il va peut-être la refuser, parce qu'il pourrait parier sur lui-même et aller dans le marché l'année prochaine, ce qui nous arrangerait. La seule chose qu'il faut pour nous, messieurs, et c'est un peu machiavélique, il faut que notre volonté de lui proposer l'extension soit connue de tous, pour montrer que chez les Knicks, maintenant, quand on joue bien, quand on devient All-Star, on est payé. On n'est pas comme un Kristaps Porzingis qui a été envoyé aux Mavericks pour rien. Donc pour moi, c'est sur ces axes-là qu'il faut travailler. Et bien évidemment, je suis d'accord, Barrett va rester. Pour ce qui est des autres joueurs cités, le problème d'un joueur par exemple comme Nerlens Noel et le problème de notre équipe globalement, c'est qu'elle est faite de role-players qui ont surperformé, donc les autres équipes vont être tentées de parfois un peu les surpayer à la free agency. Faudra s'en méfier.
C'est sûr qu'il faudra s'en méfier, mais il faudra aussi quand même identifier ce qu'on souhaite conserver un minimum, puisqu'effectivement, comme vous le disiez, on n'a pratiquement personne sous contrat l'année prochaine, et même si On va viser probablement des signatures. Je vous en reparlerai de nos ambitions, évidemment. Il va falloir qu'on conserve certains joueurs. Alors, est-ce que du côté du coaching staff, est-ce que j'ai vu que cette saison, par exemple, il y a eu une prime aux anciens, aux joueurs qui peuvent contribuer tout de suite. On a peut-être moins vu de certains de nos jeunes joueurs. Je pense notamment au cas épineux de nos fans français, de Franck Ntilikina, mais également un Obi Toppin, un Kevin Knox, qui a très peu vu le terrain. Sur l'axe des reconductions de joueurs, est-ce qu'on préfère garder nos jeunes dans une optique de développement, peut-être d'échange également, comme nous disait le GM, ou est-ce qu'on va plus viser des joueurs au profil de contribution immédiate, peut-être un peu plus vétérans?
Alors, je vais être clair, je vais partager ma volonté. Franck, pour moi, je ne le ferai pas jouer. Même si on le conservait, je ne le ferai pas jouer. Ce sera idem de Kevin Knox qui restera au placard. Je compte pas le faire jouer. Pour moi, il n'a pas le niveau de l'équipe. Et pour Obi Toppin, s'il a le niveau, il peut rentrer dans ma rotation. Mais en tant que coach, je ne peux pas promettre. Donc si une offre juteuse était faite à notre GM pour Obi Toppin, je ne serais pas triste de l'abandonner. Mais au vu du discours du GM, je peux comprendre qu'il y a peut-être l'envie de donner envie à ses choix d'âme. Mais pour moi, en tout cas, les cas de Knox et Ntilikina sont clairs. Ils ne rentrent pas dans mes plans.
Très bien, du côté du GM, qu'est-ce qu'on en dit
Vis-à-vis de Franck Ntilikina, il a un cap hold parce que c'est un free agent cette saison à 18,5 millions. Donc je pense que pour un joueur qui a joué moins de 300 minutes cette saison, je suis totalement d'accord avec notre coach. Je pense qu'il faut mieux se séparer. Et encore une fois, dans l'image que l'on veut projeter en tant que franchise, le fait voilà qu'on ne s'accroche pas et qu'on ne s'accroche pas sur certains joueurs et qu'on soit capable de passer une étape, de clore un chapitre, ça peut être plutôt positif. Vis-à-vis de Kevin Knox et Obi Toppin, en tant que GM, je suis devant un peu un problème, une problématique, c'est que je veux pas avoir le problème qu'on va avoir avec Mitchell Robinson, c'est-à-dire d'être en fin de contrat rookie pour des joueurs dont je ne connais pas la valeur. Parce que il sera important pour nous de re-signer nos joueurs en contrat rookie, et un Kevin Knox va entrer dans une année charnière pour lui, et un Obi Toppin doit un moment dans son développement de joueur voir le terrain. Parce qu'on ne peut pas arriver décemment avec uniquement, on peut y arriver avec des vétérans sur une saison, mais il faut avoir ensuite un mix qui nous permet de juger de la valeur de ces joueurs. Et bien évidemment, s'ils n'ont pas le niveau, alors bien sûr ils joueront pas, mais aussi parfois savoir leur donner leur chance. C'est pour ça que j'estime qu'il va falloir réduire de un ou deux spots le nombre de vétérans dans cet effectif.
Très bien, très bien. Et donc, ça nous amène au remplissage de cet effectif. Vous parliez tous les deux d'identité un peu plus tôt sur le bilan de cette saison. C'est vrai qu'on peut revenir sur les joueurs qui ont contribué, qui sont des joueurs capables défensivement pour la plupart, même certains qui nous surprennent grâce au magnifique travail de notre coach. Hein, mais on a été capable d'être efficace, notamment en switch. On a eu, vous parliez de nos pivots dans deux styles un peu différents, Mitchell Robinson peut-être un peu plus athlétique, Nerlens Noël un peu plus intelligent sur ses placements défensifs, mais qui ont contribué très fortement à nos résultats cette année et à notre identité. De mon côté, je pense que ce retour de l'identité que nous avions il y a plus de 20 ans maintenant, mais qui a fait aussi les grandes heures des Knicks et qui a amené beaucoup de fans d'une certaine génération, a l'air de plaire et de ramener également de nouveaux jeunes fans autour de nous. Donc peut-être qu'on pourrait garder ce côté-là, même si, avec donc tout ce que vous m'aviez dit, on a beaucoup d'argent, on peut re-signer certains joueurs, je pense qu'on a un peu d'argent de côté, et qu'on va pouvoir aussi remettre New York de manière plus pimpante au centre de la NBA, au-delà d'un Julius Randle et RJ Barrett, même si on va les conserver pour les remercier de leur service. À quel point pensez-vous que c'est possible dans l'année qui arrive peut-être, mais les années qui arrivent également?
Alors si je peux me permettre, avant de laisser la place au coach, je pense qu'il y a déjà des réflexions qui doivent se faire sur deux joueurs qui sont dans notre effectif actuellement, qui sont Julius Randle et Mitchell Robinson, au niveau du montant. C'est-à-dire que Julius Randle, son contrat va être garanti pendant l'été, et surtout, il est éligible à une extension. Comme je l'ai dit, alors il faudra parler entre nous tous, mais je pense qu'il est de notre intérêt de lui offrir une extension, et même de lui offrir le max que l'on puisse lui donner à l'heure actuelle. Pourquoi ? C'est un All-Star. Son max serait à 23 millions la première année, et le montant maximum en 2025-2026 serait à 30 millions, il aurait 31 ans. On n'est pas sur une extension qui est complètement folle, on est sur une extension à 4 ans, 106 millions. C'est quelque chose qui est plutôt raisonnable, ça nous offre un contrat sur plusieurs années. Ça montre que quand on progresse chez Linux, on est rétribué, on est payé. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas s'il acceptera, mais je pense que c'est le premier move qu'on doit faire. Sécuriser Julius Randle et lui montrer que c'est quasiment son équipe, ou en tout cas en l'état, on compte sur lui.
Est-ce que, coach, vous pensez également que Julius Randle mériterait d'être donc avec un contrat max, une des pièces principales en tout cas des Knicks des années qui arrivent, première pièce, deuxième pièce, à voir éventuellement?
Oui, tout à fait. Moi, c'est ce que j'ai dit, je souhaite le conserver. Il a beaucoup apporté, c'est le leader de cette équipe. Il a montré des grandes qualités. Pour moi, il n'y a aucun doute. Et si notre GM pense que le contrat max est le bon, donnons-lui un contrat max, ça me convient parfaitement. Moi, derrière cette question de Julius Randle, pour moi, il faut qu'on investisse de l'argent sur notre poste 1 et notre poste 3, qui sont, à mes yeux, notamment sur le poste 1, qui est miraculeusement faible au vu de notre saison. C'est-à-dire que Elfrid Payton est quelqu'un de très bien, très bon joueur, et je l'apprécie énormément, mais ses qualités offensives sont douteuses. Et malheureusement, pour moi, on ne peut pas se permettre deux saisons de suite d'avoir un meneur titulaire qui ne peut pas apporter autant offensivement qu'on le souhaiterait. Et j'aimerais apporter une autre clé de lecture. Je souhaiterais du coup que ce poste de meneur puisse avoir un des deux membres qui puisse défendre. Et je ne pense pas que ce soit les qualités prochaines de RJ Barrett. Et du coup, peut-être avoir un meneur avec un profil un peu défenseur et de l'apport offensif. Et pour donner un joueur type, j'ai indiqué à mon GM que le joueur idéal serait Malcolm Brogdon. Si on est capable de le récupérer.
J'entends. Et puis c'est vrai que, sans vous faire offense, en ayant vu votre travail, c'est vrai que quand... offensivement, ce ne sont pas nos qualités premières, et un meneur de très haut niveau offensif est quelque chose qui sied beaucoup à votre système de jeu et irait bien. Je voudrais poser la question avant de parler des éventuels profils qu'on pourrait cibler, en commençant donc pourquoi pas par le poste 1 de notre jeune pousse, rookie cette année, Emmanuel Quickly, qui a fait quelques sorties plutôt intéressantes offensivement. Je sais qu'il bénéficie d'une certaine cote de sympathie, notamment, on le sait, avec les draftés un peu plus bas qui surperforme, ça fait toujours plaisir à nos fans. Quid d'Emmanuel Quickly? Est-ce qu'il serait capable d'endosser un rôle de meneur de sortie de banc dans les années qui arrivent? Qu'est-ce qu'on en pense?
Bon, moi, c'est mon avis. C'est que je ne souhaite pas le mettre titulaire de cette équipe. Je pense qu'il n'en a pas encore les épaules. Néanmoins, il a apporté des solides minutes. Il a gagné son temps de jeu. Il l'a mérité. Il a montré des choses. Donc, pour moi, il jouera dans les rotations. Ce serait d'ailleurs toujours bien qu'il ait au côté de lui un meneur vétéran en la personne
Derrick
de Derrick
Rose.
Exactement. Je suis le coach Genix après tout. Et donc pour moi, il ne peut pas prétendre à cette place de titulaire. Il a quand même montré des signes d'inquiétude, notamment sur sa production offensive, qui n'est pas non plus si fabuleuse que ça. Néanmoins, il montre des choses. Il est agressif. C'est très bien. Donc pour moi, à garder, mais dans la rotation.
Est-ce que vous êtes d'accord du côté du general management, puisqu'effectivement, quand même, quand on vous a fait venir, mon cher coach, c'était aussi pour commencer à gagner des matchs, ce qu'on a réussi à faire cette saison. Et donc, la question ce qui se pose, c'est si on continue dans cet objectif-là, effectivement, on ne va peut-être pas laisser tout le temps les clés du camion à un jeune meneur, un jeune arrière, et même si on a un Julius Randle qui s'est affirmé.
Je suis assez d'accord avec le constat, il nous faut un meneur. Encore une fois, dans cette optique de redevenir sérieux, c'est souvent une blague dans les cercles NBA. Voilà notre notre quand on fait la liste des meneurs de notre franchise sur les dernières années, il faut remonter très loin pour en voir un décent. Donc c'est évidemment, je suis d'accord là-dessus. Je suis d'accord que si on est dans une logique de gagner des matchs à court terme, il nous faut un autre profil qu'Emmanuel Quickly, qui a un jeu qui est très risqué, qui est pas forcément le jeu qu'on va adopter dans notre style. Après, mon cher propriétaire, pour moi, investir sur le poste de meneur, on va parler des finances, c'est possible, on a de l'espace, il faudra réfléchir par rapport aux joueurs pour lesquels on va abandonner les capoles des pour lesquels on va simplement perdre les droits, pardon. La question, c'est est-ce qu'on a, on part sur une optique de, on veut une équipe solide sur plusieurs années, donc on va peut-être aller sur un meneur plutôt un peu plus jeune à qui on va offrir un contrat sur, voilà, plusieurs années, 3-4 ans, ou est-ce qu'on part sur une logique où on veut quelqu'un qui garde la place avant d'avoir un plus grand meneur installé à moyen terme, et là du coup on partira, et il y a des possibilités cette saison, sur un meneur qui est du mauvais côté de la trentaine, pour être, voilà, pour le dire comme ça, et qui pourra nous rendre service pendant 1 ou 2 ans, qui sera payé très cher sur une free agency, mais qui en 2024 ne sera plus là.
Je vais répondre à cette question par une autre question, c'est-à-dire que nous sommes New York, nous recommençons à gagner, on veut gagner, ça c'est un fait. La question, c'est, est-ce que, comme vous me l'avez dit, et je vais vous suivre dans ce cas-là, nous allons quand même essayer d'avoir une certaine cohérence sur, à court terme, en reconstruisant, en continuant notre construction autour de Julius Randle et d'RJ Barrett. Est-ce que on peut gagner avec une équipe avec, donc, en option 2, 3, Julius Randle et RJ Barrett? Si oui, all-in. Sinon, j'entends qu'on puisse délayer encore sur 4-5 ans. Peut-être pas trop long, mais qu'effectivement, qu'on essaye de voir à moyen terme ce qu'on est capable de faire pour qu'à terme, New York redevienne à la fois attractif, ce qu'on est en train d'être, et également un contender sérieux pour le titre régulièrement en NBA.
Je vais donner la parole ensuite au coach qui est au contact quotidien de ces joueurs. Je pense que tout dépend où on met la barre pour gagner. Si gagner, c'est gagner une série de playoffs, on peut pas préjuger de la progression des joueurs dont on a parlé, mais je ne pense pas. En toute honnêteté, je ne pense pas. Mais mon plan reste de coller plus ou moins ce qu'ont pu faire nos voisins ennemis des Nets. Et les Nets ont eu une période où ils ont su rester sérieux. Je pense que c'est dans notre intérêt de continuer à payer ces joueurs-là, avoir des joueurs signés sur plusieurs années que l'on pourra échanger au moment où on devient sérieux, où la crise des 4C aura été résolue. Et là, on pourra viser très haut. Julius Randle, RJ Barrett, je pense que si on fait les petits ajouts cette intersaison, on peut viser le play l'année prochaine. On est à l'Est, il reste le Magic, il reste les Cavs, il reste les Pistons. J'ai déjà cité 3 équipes, on est devant ces équipes-là, on est 12e. On est qu'à 2 places du play-in, donc ça va très vite. Donc je pense que si vous voulez avoir des matchs importants au Garden, on peut partir sur ce noyau-là. Je laisse la place au coach.
Moi, je pense clairement qu'au vu de notre faiblesse relative, notamment au poste 1, avec le bon ajout, on pourrait essayer de maintenir le même sérieux et la même forme sur des conditions moins favorables la saison prochaine. Je pense que ce groupe pourrait, en passant d'un Elfrid Payton à un bien meilleur meneur, vraiment progresser énormément, et du coup progresser d'autant que tous nos adversaires progresseront l'an prochain. Et il faut pas oublier que on n'est pas à l'abri que certains de nos adversaires dans cette course puissent glisser également. Et donc c'est à nous d'essayer de progresser suffisamment pour compenser la hausse de la concurrence qui arrivera.
Si je peux me permettre,
allez-y,
une
allez-y,
petite chose. Actuellement NBA, ça a été écrit par plusieurs insiders. On a 7 ou 8 équipes qui sont en all-in. 7 ou 8 équipes qui ont tout mis pour le titre. Si on attend, ce qu'on va faire, ces équipes-là vont imploser à un moment. Et nous, au moment où elles vont imploser, ou au moment où elles vont vouloir se reformuler, se redessiner, c'est dans notre intérêt d'avoir des joueurs à très forte plus-value qui vont être des joueurs. Qu'est-ce que veulent ces équipes-là? Elles veulent des joueurs qui shootent, qui défendent. On va, avec notre culture, on va leur offrir ça. Avec certains des joueurs que j'ai ciblés, on leur offrira ça, et ça nous fera la possibilité d'échanger. Parce que notre franchise a un vrai problème, c'est qu'elle est en incapacité d'échanger. Donc je pense que, en gardant ce corps-là, comme l'a dit le coach, on peut faire des choses. Alors je vais être honnête avec vous, hein, je vous promets pas un avantage du terrain, je vous promets pas ça. Mais, on sait, on est New York, faisons comme les Nets, attendons 3-4 ans, et ensuite on va capitaliser et attirer un gros joueur. Zion.
Awesome. Ça fait deux choses qui me parlent, parce que déjà effectivement c'est Nets qui commence à reprendre la suprématie de la région new-yorkaise en termes de hype, c'est quelque chose qui nous embête, hein, soyons honnêtes, on veut leur reprendre, donc parier sur leur all-in, le déclin de leur all-in en utilisant leur recette contre eux, c'est quelque chose qui me plaît plutôt bien dans l'esprit, et effectivement attirer un grand nom, on ne veut pas refaire les erreurs qui ont été faites, vous les aviez dit en début de réunion, ces dernières années à New York. C'est vrai qu'on avait eu tendance à vouloir aller trop vite. J'entends qu'il faille temporiser. Mais on est parti sur ce renforcement du poste 1 et donc de notre production offensive, notamment. Ça passe par là. Je pense qu'après, sur le reste, on verra comment on pourra continuer peut-être notre identité défensive. Mais allons-y gaiement, si j'ose dire. Que peut-on viser sur cette free agency ou via trade? Mais apparemment, c'est limité. Hein, comme vous l'aviez dit, on a très peu de joueurs sous contrat, on a très peu de pièces à échanger, peut-être des sign and trade, vous allez me dire. Mais que peut-on viser parmi les free agents de cette intersaison? Vous parliez de joueurs, mon cher GM, qui ont passé le cap de la trentaine sur la mauvaise pente. Est-ce que vous pensiez par exemple à un Kyle Lowry, j'imagine?
C'est ça, j'ai identifié plusieurs joueurs. Alors c'est simple, on l'a pas encore vraiment abordé, mais si on abandonne les droits sur certains joueurs, on peut se permettre d'avoir une enveloppe à 50 millions. Il faudra encore déterminer ce qu'on va faire de Mitchell Robinson, qui a un cahier pineux dont on va parler au moment de parler du poste 5. On est dans une année assez étrange au niveau des free agents. On a quelques meneurs confirmés, mais qui sont, comme je l'ai dit, qui ont pour certains passé la trentaine. Alors, il y a l'option de rêve, c'est Kyle Lowry. Alors, je pense que Kyle Lowry, contrairement au deuxième joueur que je vais citer, a l'avantage d'avoir déjà gagné un titre. Donc, il sera peut-être moins à la recherche de la bague. Les points positifs, rapidement, de Kyle Lowry, ça nous offrirait le meilleur meneur, peut-être au 21e siècle qu'on ait eu. Enfin, en tout cas, un meneur extrêmement solide. 3 points, défense, je pense que ça rentre dans ce que veut notre coach. All-Star, il apporte dans la culture de l'équipe. C'est un contrat court, ce qui nous permet, si on va un peu à l'encontre de notre stratégie, de se dire que s'il y a un mouvement chez les meneurs qu'on peut anticiper, beaucoup des meneurs dominants de la NBA vont arriver à la fin de leur contrat, ça va peut-être bouger, donc on serait aux aguets vis-à-vis de ça. Point négatif d'un Kyle Lowry, il a 35 ans et on va devoir le surpayer pour attirer quelqu'un, c'est-à-dire que de notre enveloppe de 50 millions, honnêtement, Kyle Lowry mangera peut-être pas loin de la moitié, voire plus. Donc ça limitera nos autres options. Je vais laisser le coach parler sur possibilité.
Avant d'avoir les autres options, un mot sur Kyle Lowry du côté du coaching staff.
Moi, ce qui me dérange, c'est plutôt la construction de long terme avec Kyle Lowry, mais je comprends les arguments du GM. En tout cas, c'est sûr que l'an prochain, nous serons plus forts avec Kyle Lowry sur le terrain qu'Elfrid Payton. Ça ne fait aucun doute.
Honnêtement. On aime beaucoup Elfrid, mais effectivement.
Donc, notre GM pense qu'on pourrait peut-être récupérer autre chose de mieux plus tard, moi, je peux très bien composer avec Kyle Lowry à la main. C'est clairement une montée de niveau au poste 1 et c'est ce que je souhaite et ce que je réclame clairement pour cette équipe. Donc pour moi, l'option en tout cas me semble très intéressante.
Et donc si pour plusieurs raisons, soit on n'arrive pas à convaincre Kyle Lowry de signer chez nous, parce qu'effectivement il sera probablement parmi les free agents considérés par beaucoup de nos concurrents, où situons-nous la barre du compromis? Quels autres profils pouvez-vous nous présenter, mon cher GM?
Alors j'ai ensuite listé des joueurs qui sont également free agents, mais pour des raisons parfois un peu différentes, diverses, dont selon moi il faut s'éloigner. On a Mike Conley, qui est un vétéran en fin de contrat. Alors pour moi, il faut s'en éloigner, Mike Conley, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un joueur qui a jamais joué de finale NBA et qui, clairement, dans ses déclarations, veut aller dans une équipe qui joue des grandes choses. Donc je pense pas qu'il va aller vers nous en premier. J'aime pas trop ses risques de blessure. C'est un joueur qui joue moins de 30 minutes par match. On sait que notre coach aime beaucoup jouer avec ses titulaires. Donc je pense pas que la solution Mike Conley soit la bonne pour nous. Même si Mike Conley sur le terrain est un joueur qui nous aurait apporté beaucoup, Mike Conley dans ce qui peut être hors terrain et dans le joueur lui-même ne nous arrangerait pas. Sans compter, si on a un peu d'humour, que passer de Memphis, Utah à New York, il faudrait le préparer. Ensuite, pour moi, le joueur qu'il faut éviter, je donnerai la parole à notre coach après, c'est Dennis Schroeder. Pour moi, c'est le joueur à éviter de cette free agency. Son année de production avec OKC, c'est un trompe-l'œil, tout le monde le sait, le tir à 3 points a baissé. Il va pas s'adapter à notre système héliocentrique autour de Julius. Ça ne va pas marcher. Même s'il peut s'adapter à le système de notre coach sur du pick and roll, je pense que il n'est pas adapté à ce qu'on fait en 2021. Et puis, il va demander beaucoup de temps de jeu. On sait que c'est un joueur dont il y a eu parfois des problèmes vis-à-vis de son rôle. Donc, selon moi, c'est un joueur dont il faut s'éloigner à un cas particulier. Si son marché est beaucoup moins bon qu'anticipé, alors oui, ça peut être une solution de repli. Enfin, dernier, Goran Dragic, là je vais faire court, trop souvent blessé, il est bien du côté de Miami, Il est une option d'équipe, donc on ne sait même pas s'il sera free agent. Donc selon moi, on est face à trois meneurs dont il faut s'écarter. Ça, ce sont les anciens Knicks qui auraient signé ces joueurs-là. Nous, on ne veut plus de ça.
Très bien. J'aurais peut-être un autre nom à suggérer, mais je voudrais d'abord entendre le coach, donc notamment sur les cas à éviter, donc de Mike Conley, de Dennis Schroeder.
Moi, je souscris pour Mike Conley pour les mêmes raisons et pour Dennis Schroeder. Et dans mon système, en fait, mon meneur n'est pas la pièce centrale avec la balle parce que je vais la laisser à Randle et à Barrett. Et donc, j'ai besoin d'une capacité à être dangereux sans le ballon, ce qui n'est pas forcément la première force de ce joueur. Et j'ai peur aussi que dans le cadre discipliné que je souhaite imposer à la défense, qu'il n'ait pas la rigueur requise pour appliquer à la lettre les consignes. J'ai pu le voir par mes expériences passées que quand les joueurs ne veulent pas appliquer les consignes à la lettre, ça peut très vite passer d'une défense correcte à une défense catastrophique.
Très bien, donc je vais rajouter un nom, je vais vous le soumettre, mon cher GM, et puis vous me direz également, monsieur le coach, ce que vous en pensez. C'est que nous avons un certain Lonzo Ball qui est agent libre restreint cet été. Lonzo Ball qui bénéficie d'une certaine cote de popularité, alors aimé, mal aimé, mais en tout cas son nom fait parler, qu'on pourrait retrouver donc de manière très sympathique dans un maillot d'Enix, qui est donc agent restreint. On ne sait pas exactement combien nos amis des Pélicans sont prêts à mettre sur son cas. Peut-on, avec l'argent que nous avons, effectuer une offre raisonnable mais relativement conséquente pour dissuader nos concurrents de la matcher et pour coïncider avec la temporalité? Dans mon esprit, RJ Barrett, Julius Randle, Lonzo Ball, ce serait sur notre projet à moyen terme.
C'est ma cible pour la free agency. Assurément, Lonzo Ball, je reconnais là, cher propriétaire, votre connaissance aiguë du basket. Il y a plusieurs rumeurs qui l'envoient chez nous. On sait que du côté des Pélicans, il est pas en odeur de sainteté. En fait, les Pélicans ont un problème avec Lonzo Ball, c'est qu'il est parfait pour eux, mais ils sont bloqués d'un point de vue financier. Et en plus, on sait que Lonzo Ball ne se plaît pas à New Orleans. On sait que voilà, c'est plutôt un joueur de grand marché. Selon moi, il rentre un peu dans beaucoup des choses qu'on veut faire. C'est-à-dire que c'est un joueur qui viendrait apporter, alors pas de la création au scoring, mais au niveau des qualités de passe. Et je trouve que c'est parfois quelque chose qui peut manquer dans notre système. C'est un joueur aussi qui a le potentiel pour être très bon en défense. On l'avait vu très bon en défense du côté des Lakers, ça a un peu baissé. À voir dans un collectif défensif, parce qu'on sait que du côté de la Nouvelle-Orléans, ça ne défend pas. Donc je pense que dans ces... notre coach parlait d'un joueur capable de défense sur les deux postes. Lonzo Ball peut switcher sur trois postes presque. Donc on est vraiment sur quelque chose de très positif. Le seul point négatif pour moi, alors, entre guillemets, il y en a trois si on veut. Est-ce qu'on veut... le premier, c'est... Il est free agent restrictif. C'est-à-dire qu'il va falloir offrir de l'argent. Visiblement, il veut 20 millions par an. C'est-à-dire qu'il faut se préparer mentalement si on fait ça, si on l'ajoute à la prolongation, pardon, de Julius Randle. Il faut se préparer d'ici 2 ans à avoir 50 millions sur Julius Randle et Lonzo Ball. C'est-à-dire qu'il faut se préparer à avoir 40% de notre salary cap sur ces deux joueurs-là. Je sais pas si on est prêt à faire ça. Deuxième point négatif, est-ce qu'on veut vraiment se bloquer avec Lonzo Ball sur 3-4 ans, quand on sait que peut-être qu'on deviendra une équipe cohérente? Point positif, ça fait quand même un contrat qui sera facilement échangeable. Dernier point, j'aime pas avoir ce genre de réflexion vis-à-vis de ce joueur-là, mais on veut être une équipe sérieuse, on veut être une équipe de col bleu comme on l'était dans les années 90. Je ne veux pas de LaVar Ball près de ma franchise. Alors il y a le petit frère à 2 heures d'avion, c'est parfait, mais c'est pas le genre de personnage que je souhaite voir proche des Knicks. Le point positif, c'est qu'il a l'air de s'être calmé, mais à voir.
Bon, avant de redonner la parole au coach, effectivement, sur ce côté spectaculaire de LaVar Ball, ça nous offrirait des images probablement encore. Et puis nous avons l'habitude de bannir les gens de nos gradins. Donc, disons que c'est une situation qu'on serait capable de gérer. Pour le contrat, comme vous disiez, effectivement, c'est à prendre en compte. À vous de me dire si du coup ça rentre dans cet objectif aussi d'être sérieux, dans cette stratégie qu'on va appeler stratégie Nets, même si ça ne me plaît pas beaucoup de faire référence à cette équipe. Et comme vous l'aviez dit aussi, on en a parlé depuis le début de cette réunion. Besoin d'avoir des contrats peut-être un peu plus longs et des monnaies d'échange dans les années qui arrivent. Et c'est peut-être ce point négatif du contrat un peu plus long de Lonzo et de l'argent mis dessus peut se transformer en point positif si on le compare à un argent mis sur 2 ans sur Kyle Lowry où Lonzo pourrait toujours avoir une certaine valeur. Qu'en dites-vous du côté du coaching staff?
Moi, au niveau de ce que je souhaite mettre en place, déjà offensivement, je pense qu'il serait à l'aise dans ce que je souhaite dessiner, notamment au vu du rythme de jeu, qui va être très similaire à des moments où il était extrêmement à l'aise aux Lakers avec une pace plutôt faible et du coup un jeu où on va lui demander de ne pas être le créateur du tir, mais peut-être celui qui va faire l'avant-dernière place, voire la dernière place, mais du coup on va pas lui demander ça. Je pense que ça pourrait lui convenir. Défensivement, j'ai vu qu'il pouvait être discipliné, et notamment je me souviens de la saison qu'il avait effectuée aux Lakers, où suite à sa blessure, on a bien vu qu'il avait, que la franchise avait souffert défensivement à ce moment-là. Et du coup, ce qui me laisse à penser que ce qu'il se passe actuellement au Pelicans est une anomalie liée à globalement comment cette franchise souhaite fonctionner, c'est-à-dire sans défense. Et du coup, évidemment, ce ne serait pas la pièce centrale, mais il serait capable d'apporter ses efforts. Pour moi, il coche pas mal de cases. Donc pourquoi pas. Après, j'ai des doutes sur le nombre de minutes que je souhaite lui faire jouer, sa capacité à les encaisser physiquement. Je tiens à souligner quand même ce défaut qui quand même me gêne un peu, mais c'est à voir. Il se peut que l'an prochain nous ayons une rotation à trois meneurs avec Quickley et Derrick Rose. Peut-être que je pourrais un peu baisser le curseur de minutes et jouer à trois meneurs qui se succéderaient.
C'est vrai qu'un... je vous coupe la parole. Excusez-moi, cher propriétaire.
Je vous en prie.
C'est vrai, oui, il faut citer ça. Lonzo Ball, c'est un joueur qui joue jamais 82 matchs et c'est un vrai point faible. Après, est-ce que c'est pas un point faible qu'on peut tirer en notre faveur? C'est-à-dire, est-ce que les Pelicans vont glisser vers lui ou vont peut-être abandonner cette piste-là, sachant que certains autres joueurs de leur collectif ont cette tendance-là. Donc peut-être qu'ils vont vouloir s'éloigner de ce genre de joueur.
Et pour la gestion des minutes, juste rapidement, mon cher coach, il me semble que nos joueurs du poste 1 sont relativement longs et qu'on serait peut-être capable de trouver des minutes sur le poste 2 dans les rotations pour certains si besoin.
Quelle connaissance du basket.
Alors, écoutez, on essaye au fur et à mesure un petit peu de s'intéresser. Alors, en tout cas, on va peut-être pas trop s'étaler sur le cas Lonzo, parce que ce n'est pas sûr à 100% qu'on retrouve dessus. Donc cette histoire de meneur, si on doit prioriser dans l'ordre, j'allais dire Conley, et non, du coup, forcément. Kyle Lowry, Lonzo et puis peut-être un troisième si jamais on n'y arrive pas. Quel type de profil rapidement si vous avez des noms? Dites-moi si on est d'accord sur en tout cas la hiérarchie au début des priorités.
Moi je proposerais même Lonzo avant Lowry. Lonzo s'inscrit complètement dans ce qu'on veut faire.
Très bien.
Lonzo, Lowry. Alors ensuite, si on n'a aucun des deux, je dois vous avouer que la classe de free agency est pas très intéressante. C'est-à-dire qu'on va tomber vers des joueurs qui seront presque moins bons que nos titulaires. Donc là, on va être obligé de... Il y a un pari, moi. Je vais demander au coach, parce que là, on est au-delà de mes compétences, mais j'ai mis Mike Conley en troisième, et à côté de Mike Conley, j'ai mis entre parenthèses, qui est pas vraiment un meneur, un Victor Oladipo, qui a free agent du côté de Houston, qui a des graves problèmes de blessures. Là, on serait vraiment sur ce qu'on appelle chez nous, au pays de l'oncle Sam, low risk, high reward, peu de risque, grande possibilité, où on est face à un joueur qui était All-Star il y a moins de 3 ans de ça, et qui est un peu en délicatesse avec tout. Donc je pense que ça pourrait être un pari qu'on pourrait faire sur 2 ans, un contrat avec une option sur la deuxième. C'est un pari qu'on pourrait faire si Lonzo et Kyle Lowry ne réussissent pas.
Pourquoi pas, je suis pas forcément fan, parce que j'ai peur que si ce pari ne s'avère pas payant, qu'on se retrouve avec un boulet qui ne jouera pas énormément. Mais si on a la place de le faire sans négliger les autres pistes, pourquoi pas. Moi, j'aimerais demander votre avis sur un autre joueur. Et si on déplaçait pas mal de créations ailleurs, avec un joueur qui nous a montré beaucoup de créations cette année. Alors, sur la défense, je suis un peu plus gêné, mais on verrait comment on pourrait s'arranger. Est-ce que, monsieur le GM, monsieur le propriétaire, que pensez-vous d'un DeMar DeRozan pour déplacer un peu de création dessus? Que pensez-vous de lui? Je pourrais le faire jouer, effectivement, du coup, plutôt autour du poste 3, mais il pourrait avoir la balle, faire de la création. Je trouverais ça intéressant et ça permettrait de diversifier nos menaces. Alors, au tir extérieur notamment, il n'apporterait pas grand-chose. Et dans ce cas, il faudrait un pur tireur sur les postes arrière et pourquoi pas un meneur dans ce cas-là. Et ça permettrait de résoudre nos problèmes si aucune de nos options viables ne venait à être validée.
Avant d'avoir votre avis, Monsieur le GM, je voulais juste poser la question. Est-ce que si on se part vers un Demar DeRozan, donc qui serait associé à RJ Barrett, est-ce que ce serait plutôt sur les ailes et du coup, il nous faudrait un tireur à la main ou est-ce
oui.
que vous considérez de
C'est
déplacer
sur les ailes.
Très bien. Très bien. Donc on parlera de l'aile évidemment, bon, ça nous fait une transition. Donc Monsieur le GM, quid de Demar DeRozan? Est-ce que du coup, après, à la main, ça nous oblige peut-être à revoir les ambitions à la baisse pour un profil purement shooter, a priori?
Je suis pas très fan de cette option pour plusieurs raisons. Alors déjà, je suis le coach connaît mieux que moi l'effectif, mais je me demande à quel point il peut rentrer dans. Il est quand même dans un collectif très très fort du côté des Spurs. Je pense pas qu'on ait la prétention de se actuellement, vu l'état dans lequel est la franchise, c'est-à-dire en progression, en train de se reconstruire petit à petit. Je pense pas qu'on ait la prétention d'avoir cette espèce d'assise-là et cette capacité à faire.
Nous sommes les plus mauvais de la NBA à ce niveau, je dois le reconnaître.
Et ensuite, mon problème, c'est qu'en tant que GM, si je pense moyen terme, voire long terme, en faisant ça, on vient couper un de nos postes ou certaines de nos positions, on a les plus jeunes joueurs. C'est-à-dire que là où Emmanuel Quickley, si on le laisse en sixième homme, on lui laissera 20 minutes par match. Si on rajoute un Demar DeRozan, on commence à avoir, même si je sais qu'il rentre pas complètement dans les plans de notre coach, on commence à arriver à un moment où on aura du Kevin Knox, du Obi Toppin qui auront des rotations beaucoup trop et des joueurs beaucoup trop forts vis-à-vis d'eux. Donc c'est pas forcément le genre de joueur que je veux voir dans notre équipe. Puis aussi d'un point de vue personnel que Demar DeRozan a été un joueur. Enfin, je trouve qu'il a peut-être trouvé une certaine paix aux Spurs et je sais pas une piste qui m'intéresse vraiment. Surtout que encore une fois, si on pense à notre volonté de signer des contrats longs, Demar DeRozan, on va le signer pendant 2 ans et il aura aucune valeur de transfert. Là où d'autres ailiers en auront.
C'est un peu l'avis que j'avais. Et puis effectivement, le dernier point que vous avez dit sur la paix qu'a trouvé Demar DeRozan, on se souvient de son Players Tribune. Je suis pas sûr que de le réexposer aux Knicks soit un bienfait pour lui et donc a posteriori pour nous. Donc peut-être que, alors on le garde de côté éventuellement, ça peut être une piste à creuser si besoin dans cette free agency, mais peut-être que on va garder cette idée de, admettons, Lonzo, Lauri à la main, et donc il nous faut renforcer les ailes d'une certaine façon. Il nous faut du shoot dans cet effectif a priori. Avant également de parler de notre problématique de nos jeunes intérieurs. Rapidement, messieurs, qu'est-ce que nous pourrions cibler pour compléter tout ça à cette free agency?
Alors, je me suis concentré sur la free agency, on pourra parler de trade après. Alors, ce joueur-là n'est pas vraiment un 3, mais c'est un 2-3. Et dans un monde idéal, si on arrive à attirer Lonzo Ball, on peut être sur un poste 1-2-3 où en fait les joueurs peuvent switcher en défense de manière infinie. Ces deux joueurs qui m'attirent, c'est un Norman Powell. Alors, il faut être honnête, si on attire Norman Powell et Lonzo Ball, on sera financièrement dans une situation où on aura 8 ou 9 millions pour le reste. Après, ça dépendra des capoles auxquels on va renoncer, mais on serait dans une situation parce qu'un joueur comme Norman Powell a dit qu'il voulait 20 millions. Donc si on ajoute ça aux 20 millions que voulait un Lonzo Ball, même si au début de leur contrat, on sera sur des contrats qui vont augmenter, on aura 35, 37, 38 millions sur les deux. J'aime bien Norman Powell parce que c'est un joueur qui shoot, c'est un joueur qui défend. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin et on y reviendra plus loin plus tard. Il a le même agent que Mitchell Robinson. Donc si on peut envoyer un message clair aux agents en disant qu'on est capable de re-signer ce joueur et pendant le même été, on va prolonger un Mitchell Robinson, ça peut être plutôt intéressant. En dehors de cela, il y a des joueurs, pour moi, sur l'aile, il faut tenter des paris. L'aile est un poste à la free agency où on surpaye tellement qu'on n'est pas en capacité d'aller chercher. Kawhi Leonard ne le sera probablement pas, je pense. J'ai pensé à deux noms. Un Kelly Oubre, qui est en perdition oui. du côté des Warriors. Les Warriors n'ont pas la capacité financière de le re-signer. C'est un joueur qui nous coûtera pas très cher. Il connaît la conférence Est. J'adore, je vous avoue, le côté communication swag papy, wave papy.
Très New York.
on aime ça, on aime ce que peut apporter Kelly Oubre. Puis c'est un joueur qui a prouvé des choses du côté de Phoenix avant de partir du côté de Golden State. Et un autre joueur, alors il a une option joueur, je ne pense pas qu'il va l'activer, mais c'est un pari. Là on est vraiment sur le pari, c'est Josh Richardson. Il est perdu depuis 2 ans, pour le basket. Il est vraiment perdu et je pense que c'est une option pour laquelle on payera pas très cher. Alors, quitte à aller le chercher en trade, je ne sais pas, mais là, on est clairement sur une option où on achète la valeur de Josh Richardson au plus bas. Je pense honnêtement qu'il peut pas en, on peut pas en tirer de mauvaises choses. Voilà.
Très bien. Avant de laisser la parole à notre coach, j'ajouterai juste un nom, un ailier avec du shoot. Bon, un peu moins de défense, mais il y a toujours Carmelo Anthony qui existe dans cette ligue, si jamais vous voulez l'envisager. Mais je vous laisse la parole.
Malheureusement, j'aimerais bien que notre poste 3 défende. Donc, je me permets de dire que Carmelo ne rentre pas du coup dans mes plans. Et de toute façon, je pense qu'il ne peut pas jouer à autre chose que le poste 4 actuellement, de par son manque de capacité défensive.
Et donc Powell ou Bray?
Je suis très fan de l'option Norman Powell, hein, on va pas se mentir, je pense que c'est le meilleur joueur cité par notre GM à date, mais l'option Kelly Oubre, s'il faut choisir ou mettre plus d'argent, je préfère mettre beaucoup plus d'argent sur le poste 1 et du coup tenter le pari Kelly Oubre. Je tiens juste à signaler que si on tentait un pari, dans ce cas, j'aimerais bien garder Reggie Bullock dans le roster parce qu'il pourrait servir en rotation et que dans le pire des cas, il nous a montré qu'en tant que titulaire, il n'était pas mauvais. Alors certes, c'est comme à notre poste 1, ça a fait l'affaire cette année. L'an prochain, je ne suis pas sûr que ça puisse nous permettre d'être au bon niveau, au niveau où on souhaite être. Néanmoins, si on est en mode pari, Kelly Oubre paraît un pari moins dangereux, mais par exemple Josh Richardson, ça peut être dangereux pour nous. Dans ce cas, tentons un pari en gardant Reggie Bullock dans notre effectif.
Monsieur GM, vous êtes plutôt d'accord. En gros, on conditionne la valeur du pari, le risque du pari à nos capacités à signer sur la main.
C'est ça, c'est totalement ça, parce que la free agency est typiquement pas l'endroit où il faut aller chercher un ailier. C'est pas le bon endroit, tout simplement parce que on va surpayer un joueur, comme j'ai pu le dire. Et je pense qu'on n'est pas en capacité, on n'est pas encore au moment où dans notre schéma de reconstruction, on doit surpayer un joueur. C'est aussi pour ça que j'ai pas été chercher des paris totalement surréalistes à la Otto Porter, qui est un joueur qui sera libre, mais qui selon moi est beaucoup trop, a eu beaucoup trop de blessures, etc. Donc, je pense que Norman Powell, Kelly Oubre, Josh Richardson, c'est ce sur quoi on peut parier, parce que, comme je l'ai dit, actuellement, il y a trop d'équipes qui sont en all-in. C'est-à-dire que les ailiers intéressants vont être captés par ces équipes-là. Si on se retrouve dans un an, bien sûr que je peux vous dire qu'on pourrait aller gratter un Jeremy Grant. Peut-être. Si on a été cohérent, etc. Mais là, on n'est pas dans un, l'environnement n'est pas assez sain pour nous pour aller chercher ça. Donc oui. Après moi, la question que je veux poser au coach, c'est si on parie sur un Kelly Oubre, est-ce que vous préférez avoir un Kyle Lowry ou un Lonzo Ball sur la main? Moi, je trouve que le 5, Lonzo Ball, RJ Barrett, si on part ensuite sur du Kelly Oubre, sur du Julius Randle et sur du Mitchell Robinson, je trouve que ça commence, c'est long, c'est athlétique, ça peut défendre, je trouve que c'est plutôt cohérent.
Oui, moi clairement, avec Lonzo Ball, la formule me plaît énormément et clairement pour moi dans la hiérarchie à la main, Lonzo Ball se dégage clairement parce que en plus on pourrait le garder longtemps avec nous et faire quelque chose où même si on loupait le coche l'an prochain, ce que je n'espère pas, on pourrait l'avoir l'année d'après en continuant sur notre lancée. Donc clairement oui, moi ça me plaît beaucoup plus avec l'option Lonzo Ball. Après avec l'option Kyle Lowry, on peut se dire aussi que on peut avoir un environnement aussi plus simple pour le pari. C'est-à-dire que si on a Kyle Lowry au poste 1,
et Lowry nous offre un plancher.
Un plancher tout à fait, et en plus de ça, on est quand même un peu plus le joueur sur lequel on pariera au poste 3, on lui en demandera moins que ce qu'on pourrait lui demander si c'est Lonzo Ball qui l'amène, parce qu'on demandera, je ne demanderai pas les mêmes choses à Lonzo Ball ou Kyle Lowry. Kyle Lowry est un All-Star, Kyle Lowry est un joueur champion NBA, je vais lui demander beaucoup plus de choses que ce que je pourrais demander à Lonzo Ball. Donc pour moi, c'est une affaire de pression. Si on met plus de pression sur le poste 1 et qu'on a un joueur référencé, vétéran, la personne de Kyle Lowry, dans ce cas, sur le poste 3, un pari est moins gênant. si on a Lonzo Ball, il vaut mieux qu'on soit sur une option plus sérieuse, même si c'est vrai que physiquement, athlétiquement, ça tient. Mais je pense qu'on est sur un fil du rasoir pour la prochaine saison et que un ou deux facteurs négatifs en trop pourraient nous faire basculer dans le mauvais sens, ce que je ne souhaite pas.
Très bien, donc avançons, on a un peu cité les noms principaux, peut-être qu'on pourra reciter ensuite des plus petits contrats, des plus petites ambitions pour remplir l'effectif à la fin, mais il faut qu'on s'attelle au dernier point crucial, on va dire, de ce 5 qu'on n'a pas encore tranché, même si M. GM vous évoquait la possibilité d'avoir comme pivot titulaire Mitchell Robinson. Il y a cette question, donc Mitchell Robinson qui avait montré des belles choses en ce début d'année, qui s'est, comme l'a rappelé le coach en début de réunion, blessé. Nous avions la chance finalement d'avoir Nerlens Noel sur le banc qui a très bien rempli le rôle. Donc la question qui se pose, c'est continuons-nous autour de Mitchell Robinson? Est-ce qu'il ne peut pas servir sinon d'une certaine façon d'une monnaie d'échange? Je pense qu'il a une certaine valeur. Ou est-ce que nous devons renouveler notre confiance à Nerlens Noel pour service rendu ou peut-être aller ailleurs? Je ne sais pas, comment le voyez-vous, mon cher GM, tout d'abord?
Alors la difficulté pour Mitchell Robinson, c'est qu'on a avec nous un deuxième tour de draft, donc on peut lui garantir son contrat. Le problème, c'est qu'en gros, messieurs, soit on va sur une restricted free agency, donc un marché restrictif cette année, soit on va sur un marché non restrictif l'année prochaine, en lui activant son option. Je pense, en l'état, qu'on aurait beaucoup plus à gagner en le re-signant dès cet été. Ça peut paraître risqué, mais je préfère le re-signer cet été, lui donner ma confiance, pas sur le contrat le plus exorbitant du monde, mais en tout cas lui prouver qu'on veut lui donner le poste de pivot titulaire. Parce que selon moi, il faut lui donner le poste de pivot titulaire, c'est avec lui qu'on fera la meilleure plus-value. Nerlens Noel, à OKC, à New York, ça a été un joueur qui a toujours brillé par son contrat entre guillemets pas cher, qui a fait croire dans l'esprit de beaucoup de GM NBA qu'on pouvait trouver un pivot défensif pas cher. En réalité, quand on se planche sur les options, les viables, les remplacements, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je veux parier sur un Mitchell Robinson, lui faire signer une extension pour lui prouver que, voilà, on est les Knicks, on le veut lui. Et ensuite, comme je sais que notre coach est souvent attaché à des joueurs qu'il a déjà connus, je pense qu'en termes de backup, on pourrait aller lui offrir un Gorgui Dieng. C'est-à-dire un joueur qui est, certes, un vétéran, mais il va tirer à 3 points, il sera très bon dans la défense collective, je pense qu'il serait ravi d'aller à New York, enfin on aura un profil qui je pense plairait à notre coach et qui me permettrait aussi peut-être d'alléger certains vétérans, je pense à un Taj Gibson qui a 35 ans et qui peut-être je pense qu'il serait bien de se séparer, donc voilà, on garde Mitchell Robinson, on lui donne les responsabilités, on met Gorgui Dieng. L'environnement pivot fait qu'il y a tellement de possibilités à l'intérieur de la saison que si jamais Mitchell Robinson malheureusement a une autre blessure, on irait chercher quelqu'un d'autre. Mais je pense que c'est sur cet axe-là qu'on doit avancer.
Monsieur le coach, j'imagine que vous voudriez bien garder Taj Gibson, je n'y vois aucune exception au minimum, mais sur le cas du pivot titulaire, les rotations, effectivement, on ouvre les pistes, hein. C'est bien que c'est important aussi de citer des noms pour la rotation au poste de pivot, mais là, la question pour l'instant centrale est celle de notre pivot titulaire, et finalement, effectivement, la question c'est renouveler la confiance à Mitchell Robinson, ce sera notre pivot titulaire à moyen terme, ou s'ouvrir d'autres options, soit en gardant Nerlens Noel, soit aller voir ailleurs, qu'en pensez-vous?
Moi, j'ai pas eu de souci avec le début de saison de Mitchell Robinson, et s'il avait été en bonne santé toute la saison, il aurait joué. Il a joué, il a apporté satisfaction, il a gagné ses galons. Alors Nerlens a été bon sur cette fin de saison, il y a pas de sujet avec Nerlens Noel, mais si mon GM me dit qu'il sera difficile de garder Nerlens Noel, mais que Mitchell Robinson, en le signant dès cette saison, on peut le garder. Moi, je dis, gardons Mitchell Robinson. Il a apporté satisfaction. Et on espère que tout ira bien. Mais je n'ai pas de doute au vu de son poste et du skill set qu'il propose. Je ne pense pas que sa blessure posera problème et qu'il ne va pas revenir à un niveau convenable. Concernant la suite, alors l'option Gorgui Dieng me plaît énormément. Hein. Évidemment, moi je veux refaire mes anciennes équipes partout où je passe, mais si on est capable de garder Nerlens Noel, j'en serai très heureux. Je sais que ce sera peut-être difficile, mais il faut pas se dire que le marché sera forcément fermé. Si ça se trouve, les équipes ne proposeront pas un énorme contrat à NRSOL. Donc, il faudra qu'on se mette d'accord entre nous sur peut-être un cap à ne pas dépasser. Mais re-signer NRSOL, notre GM l'a bien dit, c'est pas si commun dans la NBA d'avoir un joueur aussi bon, polyvalent et intelligent défensivement au poste 5. Moi, je trouve qu'il apporte quand même extrême satisfaction à voir. Mais je pense qu'il voudra être payé.
Oui, je pense si justement j'allais poser cette question à notre cher GM, parce que bon, si nous prenons votre théorie, nous offrons une prolongation à Mitchell Robinson dès cet été. Ce qui est l'objectif, c'est combien lui proposons-nous? Puisque si nous gardons notre théorie d'essayer de garder entre 35 et 40 millions de notre cap pour notre poste de meneur et notre poste à l'aile, il nous reste 10, 15 grand maximum millions à mettre sur l'ensemble de l'effectif. Donc combien pouvons-nous nous permettre de proposer à Mitchell Robinson, sachant, comme vous le disiez, qu'il peut aussi également s'attendre à être payé tout simplement une fois free agent.
Je pense que là, messieurs, je pense qu'il faut peut-être faire un rapide rappel d'où on est financièrement pour ensuite voir ce qu'on peut faire. Alors, on a 60 millions dans le cap l'année prochaine pour Julius Randle, RJ Barrett, Obi Toppin, Kevin Knox, Emmanuel Quickly, Mitchell Robinson et Northpeel, qui est bon, un joueur qui aura pas beaucoup d'importance dans la rotation de notre cher coach. On est à 60 millions, le cap est à 112, donc on a 52 théoriquement, parce que là il faut compter les cap hold. Donc les fameux cap hold, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on va renoncer à celui de Frank Ntilikina,
oui,
à 18 millions 5. On va renoncer à celui d'Elfrid Payton à 6 millions. On va renoncer, je pense qu'il est bon pour nous de renoncer à celui d'Alec Burke à 7 millions. Il y a un débat qui se pose vis-à-vis de Derrick Rose. Selon moi, 9 millions, il faut l'abandonner aussi. Je pense que sur le marché actuel, Derrick Rose n'aura pas 9 millions. Donc on peut abandonner son capold également. Taj Gibson, je vois qu'il y a un certain intérêt du côté de notre coach. Il est à 1 million. Pourrait le garder, je pourrais faire un effort avec vous, coach. Et Nerlens Noel aussi, je pense qu'il faut l'abandonner. Ce qui nous fait, le seul capold qui nous resterait, on serait sur celui de Reggie Bullock, qui est important pour notre effectif. On est d'accord. Ce qui fait donc que des 52 millions théoriques qu'on avait, il nous en resterait 47, environ, 45. On part sur un Lonzo Ball qui va être à 17, 18 la première année, 19, disons 20, si on est vraiment ambitieux, il nous en reste 27. Kelly Oubre sera pas à plus de 15. Ce qui nous laisse une enveloppe, comme vous l'avez dit, de 10 à 15. Je pense honnêtement que Mitchell Robinson, il faut lui offrir entre cette fourchette-là, entre 10 et 15. C'est un pari qu'on peut faire sur 3-4 années. Je vous avoue qu'il y a une prise de risque assez incroyable. Il y a une vraie prise de risque. Le problème, c'est qu'on est dans une situation où nos jeunes joueurs, il faut les re-signer. Et si on veut faire de la plus-value, avoir des valeurs de trade pour des stars dans plusieurs années, il va falloir re-signer ces joueurs-là. Donc pour moi, Mitchell Robinson à 4 ans, 45 millions, ça peut se faire.
Très bien. Au niveau du coaching, staff, ce récapitulatif vous va à peu près. Évidemment, ensuite, il faudra remplir l'effectif avec d'autres noms qu'on pourra lancer rapidement, évoquer rapidement pour la suite.
Oui, je tiens juste toujours à signaler que nous payons Joakim Noah la saison prochaine.
C'est vrai.
C'était important de le
on
signaler.
Le salue.
Et on le salue. Très bonne retraite à toi, Joakim. Tu m'as beaucoup servi aux Chicago Bulls. C'était magnifique. Donc, à partir de là, oui, on peut partir de cette base-là. De toute façon, moi, au-delà d'une rotation à 8-9, je ne vais pas forcément faire jouer plus que ça les joueurs. Donc, on peut se maintenir sur 8 à 9 joueurs compétitifs. Et après, à partir de là, on complétera avec ce qu'on complétera. De toute façon, sauf blessure, ils ne verront pas le terrain. Donc, on peut partir sur ce principe.
Je tiens à avancer avant de laisser la parole au propriétaire. Le coach a cité un élément très important. Derrick Rose, Tom Thibodeau a encore une fois ressuscité sa carrière, plus ou moins. Taj Gibson, il y a un lien de filiation très fort. Le fait que le coach a un lien si fort avec son ancien joueur fait que il peut servir d'aimant pour eux. C'est-à-dire que Derrick Rose, même si on le propose plus, je suis pas sûr qu'il ira dans une autre situation. Taj Gibson, pareil. Gorgui Dieng, ça va nous donner un pouvoir d'attraction qui sera réel. Donc je pense qu'on peut parier sur ces anciens joueurs pour les vétérans. Et ensuite tenter nos paris à la free agency. Voilà.
Très bien, très bien. Ça me va sur ce point-là. Ce début d'effectif me plaît. Il faudra quand même le remplir, même si vous le disiez. Voilà, on n'est pas à l'abri des blessures. On a été épargné cette année. Il faut quand même y penser l'année prochaine. Donc, Parmi les quelques free agents au minimum qu'on pourrait signer, qu'est-ce qui vous tente? Sur quel poste? Alors, on a parlé évidemment de la rotation au poste de pivot. Si nous renonçons à Nerlens, c'est très peu probable qu'on puisse signer Nerlens en ayant proposé l'extension à Mitchell Robinson. Donc, on avait cette idée peut-être de Gorgui Nieng en plus de Taj, ce qui nous fait la rotation au poste 4-5 plutôt remplie. Nous avons Reggie Bullock, vous l'avez dit, qu'on souhaite conserver sur les extérieurs. Emmanuel Quickley, donc à la main. Que rajoutons-nous avec Obi Toppin, peut-être sur les ailes, au cas où? Est-ce que vous avez des noms, je ne sais pas, des paris d'anciens joueurs de notre cher coach avec un Tony Snell ou quelque chose comme ça?
Si je peux me permettre, cher propriétaire, je ne pense pas qu'on ait besoin d'aller chercher d'autres joueurs parce qu'on a deux choix de draft. Donc,
c'est vrai.
Ça nous donnera la possibilité d'être extrêmement... on n'a pas ouvert ce volet-là. Aura-t-on le temps, vu que vous devez prendre votre jet pour Malibu? Dans notre approche, il faut en garder un seul. Il faut en garder un seul parce qu'on n'a pas besoin de deux jeunes joueurs de plus. Ça soit dans notre intérêt. Je pense qu'on peut les utiliser comme monnaie d'échange. Un joueur, on parlait du poste de pivot qui n'a pas été cité, qui serait pour moi un pari. Alors là, c'est l'inverse de Josh Richardson. On va essayer de l'attirer au moment où sa valeur n'a jamais été aussi haute. Mais moi, je serais fasciné de voir un Miles Turner dans notre système. Alors Miles Turner, financièrement, on peut se le permettre. Je pense, j'ai juste peur que la valeur soit trop fort pour nous à l'instant. Il a encore 2 ans de contrat. Indiana est en implosion à l'heure actuelle. Je sais pas si leur stratégie de garder une équipe solide va encore rester en place longtemps. Donc c'est un joueur il faut surveiller. Il faudra appeler du côté d'Indiana.
On passera à coup de fil.
Est-ce qu'on est d'accord du coup que si jamais ce genre d'opportunité pouvait se monter avec peut-être nos deux choix de draft, parce que moi
admettons,
je m'intéresse
admettons.
Pas à ces choix de draft. Est-ce qu'on est d'accord que dans ce cas précis, on pourrait renoncer à la re-signature de Mitchell Robinson et risquer la free agency non restreinte du coup dans un an?
Bien évidemment, si on arrive à attirer Miles Turner, Mitchell Robinson, tout décale, hein. Mitchell Robinson devient pivot remplaçant, Gorgui Dieng reste je pense, mais il sera vraiment dans un rôle de bout de banc, et on mettrait Mitchell Robinson face à ses responsabilités. Ça me plairait moyennement parce que dans l'approche que je vais adopter, qui est de favoriser les joueurs du cru, mais Miles Turner viendrait... On a potentiellement avec le coach la meilleure défense NBA, si on a Miles Turner. Enfin, si la chance avec laquelle les autres équipes tirent contre nous se perpétue, on peut avoir la meilleure défense NBA.
Oui, sachant qu'on rajoute en plus du matériel avec un Kelly Oubre voire un Lonzo, donc dans l'optique, ça me semble pas mal. Rien à redire, monsieur le coach, sur cette idée de Miles Turner?
Ce serait une excellente idée, ça m'éviterait de faire jouer nos choix de draft.
C'est pour ça que si je peux me permettre, si on part sur ce type de joueur-là, en réalité, notre effectif est pratiquement complet, à l'exception des two-way, etc. Barrett, Toppin, Knox, Quickley, Robinson pour les jeunes, on est sur 5. On a Rundle qui est notre road chess player, on part sur 6. Ensuite, Rose, Bullock, je peux accepter Gibson, on est sur 8-9. Ensuite, on a notre meneur qu'on a tiré à la free agency, 10. L'ailier, 11. Le pivot, 12. Il y a les deux choix de draft qui sont en suspens, on ne sait pas trop. Mais en réalité, notre effectif est déjà complet. Et je pense que la mission est remplie parce qu'il est meilleur que Stan.
Et nous sommes dans le cap, a priori.
Par contre, je tiens à signaler encore un autre point. Kevin Knox, si une équipe est intéressée à X moment, je tiens à rappeler que pour moi, il n'arrivera pas à faire notre rotation. Donc, si on peut économiser un peu d'argent pour peut-être donner un peu plus à un joueur plus expérimenté, se débarrasser de Kevin Knox ne me dérange absolument pas, au contraire.
C'est pour ça, cher GM, que je pense qu'il est important, et je sais que votre jet vous attend, je pense qu'il est important de faire jouer nos jeunes, parce que une des raisons qui fait que Kevin Knox, personne ne m'appelle au sein de la ligue pour Kevin Knox, c'est qu'il ne joue pas. Et j'ai peur qu'un Obi Toppin tombe exactement dans la même situation, dans cette espèce de pénitencier Knicks où les jeunes joueurs ont peu leur place. Donc, ça sera votre rôle, je pense, de trouver l'équilibre entre les résultats sportifs et faire jouer nos jeunes.
Très bien, c'est quelque chose qui me va bien. Et effectivement, pour rappeler aussi notre objectif, qui pour l'instant de retrouver le sérieux, de tout de même gagner des matchs, cet effectif me plaît plutôt, ce plan me va bien. Juste une légère question du coup sur le moyen terme, sur les 3-4 ans, une fois que peut-être d'autres équipes seront dans un cycle descendant ou à la fin d'un cycle, à ce moment-là, Que faire de nos choix de draft à venir? Est-ce que vous comptez, mon cher Liam, les garder peut-être pour à un moment donné pouvoir faire ce fameux all-in, rattirer une grande star à New York et retrouver la place qui est la nôtre?
Idéalement, on réussit à échanger un des choix de draft. En fait, je veux toujours avoir ces deux choix de draft qui peuvent être là pour un échange. Si on veut parler clairement, si vous voulez, après qu'on ait parlé de joueurs titulaires solides du rêve, je pense que si on veut viser une free agency en étant sans être trop optimiste, on peut commencer à réfléchir en 2023, je pense. 2023, on aurait encore du Lonzo Ball sous contrat, si jamais il vient. On aurait un Kelly Oubre qu'on aurait signé sur plusieurs années et on aurait certains de nos jeunes qu'on aurait re-signés. On aurait un groupe de jeunes joueurs plutôt attirants. Et là, qu'est-ce qu'on peut espérer attirer? Ben, un joueur qui est dans sa sortie de contrat, qui peut-être pas dans l'objectif d'un gagné. C'est pour ça qu'un Bradley Beal est plaisant. Le problème, c'est que je pense que la temporalité de Bradley Beal ne colle pas forcément à la nôtre, mais il nous faudrait ce type de joueur-là. Je pense aussi que ça va peut-être pas vous plaire, mais il faudrait réfléchir à un moment à tirer peut-être une star qui sera peut-être en fin de course, mais qui, voilà, viendrait montrer que les Knicks sont de retour. Je pense, alors, je sais que personne ne veut croire que ce joueur quittera un jour sa franchise, mais Damien Lillard, c'est un joueur que je garde du coin de l'œil. Parce que je pense que au moment où il partira de sa franchise, il partira peut-être un an trop tard, et les gros à ce moment-là seront plus sur lui. Pourquoi pas s'attirer un Damien Lillard, être sur ces joueurs-là qui ont passé 30 ans, qui restent forts pour montrer les Knicks sont là, les Knicks sont sérieux, et ensuite, une fois que ce joueur-là sera peut-être arrivé, eh bien là, on ira chercher la superstar.
Oh, c'est bien vendu. J'aime beaucoup cette phrase de fin. Monsieur le coach, si vous voulez rajouter quelque chose à ce plan à moyen terme.
Oui, moi, j'ai aucun souci. De toute façon, dès lors que le joueur est vétéran, avec de l'expérience dans son troisième contrat et peut apporter, moi, j'ai aucun souci avec ça. Surveillons, on ne sait jamais, peut-être l'évolution de la situation de Jimmy Butler, un tel joueur qui a mené brillamment Miami au final NBA. Si on pouvait l'avoir en tant que coach des Knicks, hein, évidemment, toujours.
Effectivement.
Et je pense, et pour terminer, je pense qu'il est très important, dans le cas d'un Jimmy Butler, des joueurs qui amènent une attitude. On veut, pour notre équipe, on veut soit de la défense, soit ce petit côté Knicks que peut avoir un Kelly Oubre. Il y a certains types de joueurs, je pense, qu'on, pour rester dans notre cohérence, dans notre continuité, qu'on doit éviter.
Et retrouver notre identité, également, ce qu'on disait. Moi, ce plan va bien. Kelly Oubre symbolisera cette volonté de Knicks dans les années futures, de la défense et du swag. C'est parfait. On va pouvoir peut-être conclure cette réunion, messieurs, sortir du rôle, reprendre celui de podcaster, puisque bon, on a un peu explosé le chrono, on va pas se mentir, on se prend vite au jeu. Au début, on ne sait pas trop aller, et puis finalement, on a envie de continuer et de vraiment prendre ce rôle.
Ce fut très, très difficile parfois, mais j'ai trop
bien
regardé
fait.
L'Enix la jouer.
Ouais, bon, est-ce qu'on peut faire un rapide bilan? Bon, on l'a fait en restant dans les rôles, mais grosso modo... de notre point de vue, finalement, en discutant, malgré qu'on soit dans des rôles, bon, l'objectif d'Enix, c'est de retrouver le sérieux. On en parlait un peu dans le podcast également sur les petits gros marchés. Et puis, vous l'aviez évoqué rapidement la semaine dernière pendant le live. De retrouver ce sérieux, de redevenir attractif, notamment pour les free agents, mais aussi à moyen terme, voilà, retrouver leur position simplement de place forte du basket NBA. Et ensuite, voilà, modérer les ambitions trop rapides qui a été leur problème ces 20 dernières années, finalement.
Et moi, je tiens à souligner que les voies d'amélioration de l'effectif, et là, on l'a bien vu, en fait, elles sont réelles, elles sont plutôt grandes, en fait.
Elles sont multiples aussi.
Moi, je trouve qu'ils sont peut-être au carrefour de faire des erreurs.
Oui,
là,
être...
c'est vraiment l'intersaison sur laquelle il ne faut pas se louper. Parce que là, ils sont dans la bonne dynamique, dans la bonne saison, peu de contrats finalement restants, les joueurs à garder sont parfaitement identifiés, les postes à renforcer, je trouve, enfin, clairement, ils ont besoin d'un poste 1 décent, et il n'y a pas 10 000 solutions, tu améliores ton poste 1, et ça te fait monter de niveau très fort, parce que...
Oui, mais Thibodeau fonctionne comme ça. Les équipes de Thibodeau, donc par expérience Bulls, je pouvais pas trop me mettre là-dedans, mais par expérience Bulls, les équipes de Thibodeau, l'attaque fonctionne sur ton fort, sur ton fort meneur, et de la défense sur son système, parce que ce n'est pas, c'est un coach très intelligent défensivement, malgré la chance qu'on a évoquée, mais offensivement, il a besoin de fortes individualités, effectivement. Mais je rejoins, je te laisserai Ben en parler. Effectivement, ils sont à un moment où risqués, entre guillemets, parce que malheureusement pour eux, cette saison d'anomalie qui s'est super bien passée, alors ça fait aussi partie des causes, mais elle se passe sans public, sans leurs fans, sans, voilà, sans le Madison Square Garden. Et en fait, ce qu'il leur faut à tout prix, c'est que l'année prochaine, ils arrivent à garder cette hype au Madison Square Garden pour vraiment relancer cette machine Knicks. Et donc c'est là où pour moi, il y a un risque à cette intersaison, il ne va pas falloir se manquer.
Alors je suis moyennement d'accord avec vous, parce qu'il y a peu de pièges. Cette année, il n'y a pas Kevin Durant à la Free Agency, il n'y a pas Kyrie Irving, on ne peut pas nous faire des montages collages avec Zion, Kyrie et Kevin Durant du côté des Knicks. Cette année, il y a peu de pièges. C'est ce que je me suis dit en regardant les listes de joueurs Free Agent. Par exemple, quand on regarde les meneurs, si parmi les joueurs à qui ils peuvent donner de l'argent... À part, et j'ai très peur qu'il le fasse, donner de l'argent à Dennis Schroeder, donner de l'argent à Kyle Lowry serait pas une erreur. Mike Conley, je pense qu'il sera pas il va pas considérer les Knicks, mais le payer en soi, ce serait pas une erreur. Tout dépend de la longueur. Et Lonzo Ball serait intéressant. Lonzo Ball, tu seras obligé de le surpayer. Dans notre simulation, on a même été un peu light sur Lonzo Ball. Je serais pas étonné que tu sois obligé de monter.
Tu dois monter un peu plus, ouais.
Et du coup, je pense qu'il y a peu d'erreurs. Pareil pour la plupart des postes, en fait, il y a peu de pièges pour eux. Donc, je suis d'accord que ils sont à un tournant, mais contrairement à d'habitude, il y a moins de
dodane. Il y a pas une star pimpante avec un risque de d'écrasage.
Il y en a pas cette année.
Un Marbury, quoi, pour schématiser.
Il y a personne. On regarde. Ils vont pas mettre de l'argent sur John Collins, parce que John Collins, ils ont Randle, donc ça aurait aucun sens. Donc, il y a peu de pièges pour eux. Et la seconde. Dans cette free agency-là, la seconde classe de joueurs est vraiment, c'est juste des titulaires. Donc, il n'y a pas vraiment de risque.
J'ai peur du statu quo, en fait. C'est-à-dire de se dire qu'on va pouvoir continuer comme ça et que ça va encore marcher. Alors que moi je trouve quand même que l'effectif, c'est...
Ah bah sur le papier, il n'est pas fou. Hein. Ils nous ont surpris. Hein. C'est vrai que cette saison, a posteriori, tout le monde dit « Ah bah oui, c'est Thibodeau, il fait jouer... » Je recite Alan, il fait jouer les titulaires 40 minutes et ça gagne. Et effectivement, en soi, a posteriori, ça semble pas pour une surprise, mais a priori, personne l'avait
personne
vu venir non plus
là.
Quand même.
Payton est meneur titulaire quand même dans cette équipe. Enfin,
oui, mais parce qu'il défend.
Mais moi, j'ai cru qu'il avait progressé. Hein. Je vous jure. Hein. Enfin, j'ai eu l'impression qu'il...
Ou à Tom Thibodeau,
non, mais on parle à moi, mais c'est-à-dire que a priori, moi, je m'étais dit, bon, je les avais pas vus depuis quelques matchs, et je me suis dit, non, mais en vrai, Elfrid Payton, ça doit être mieux. Et je regarde, et pas tant.
Non, c'est juste qu'il défend, et ça lui va. Et après, son attaque, elle est basée, Thibodeau, comme je te disais, sur les individualités. Il se trouve que du coup, il donne la balle à Barrett et Randle. Et voilà.
Mais
ils sont très très bas, j'ai plus le stats sous les yeux, mais leur offensive rating sont dans les pires de ligne.
Mais la vraie question, ça va être aussi... la pérennité du job de Thibodeau, parce que tu vois bien,
aussi,
nous, on a été respectueux, mais tu vois bien qu'il y a un moment où sur certaines individualités, le GM, il est pas être d'accord avec Thibodeau. C'est pour ça que lui donner le rôle de président des opérations basket à Minnesota, c'était une hérésie, parce que Thibodeau, il pense, c'est même plus du court terme, il pense à ses miel pops du lendemain. Enfin, on est vraiment sur du court terme, et le GM, enfin, tu vois, en tant que GM, on peut pas te dire Obi Toppin, il va pas jouer, parce que c'est mon premier tour de draft de l'année d'avant, l'autre il pique, il est obligé de jouer à un moment. Donc c'est pour ça que je pense que Thibodeau, il fera 2-3 saisons chez eux, mais la prochaine bonne équipe des Knicks, on a l'habitude de dire ça, je pense pas qu'il la verra.
C'est ça, Thibodeau, il est dans la temporalité de il est là pour remettre le sérieux.
C'est ça.
Et merci pour les travaux, mais comme ça s'est passé aux Nets récemment. Hein.
Ouais, mais j'ai peut-être été caricatural à certains instants, mais c'était vraiment ça, c'est-à-dire que je pense que les deux tours des Knicks, je ne sais pas qui seront ces joueurs, mais s'ils voient le terrain l'an prochain, s'ils sont là et qu'ils voient le terrain pas mal avec Thibodeau, ce sera parce qu'ils sont bons de manière assez surprenante dès leur première saison.
Oui, oui, non, mais comme l'a fait un Quickly cette année, c'est comme ça que fonctionne Thibodeau, mais ça dépend aussi de la free agency, de tout ça. Mais le débat peut s'éterniser.
Je dirais juste un
vas-y,
truc,
vas-y,
parce qu'il n'y a plus de chrono. Hein. Là, on est...
Ah oui, là on est...
là, ça fait bien longtemps qu'on a oublié ça.
Au moins, les fans d'Enix seront contents.
C'est ça. Le truc, c'est que si tu draftes un mec, tu le draftes sur quel poste? T'as 1, t'as Quickly, 2, t'as Barrett, 3, t'as Knox, 4, t'as Toppin, 5, t'as Robinson.
À l'aile, parce que je suis désolé, mais Knox, je vois pas comment il sort du placard dans lequel il est actuellement.
Et ça, je peux l'entendre, mais... Alors Alan est spécialiste de draft, on connaît pas assez la draft personnellement, mais surtout avec le choix à la hauteur qui sera, vu que vraisemblablement les Knicks vont en playoff, pour moi, c'est pas un joueur d'impact, t'as pas intérêt à le garder.
Le pic a plus de valeur en tant que pic qu'en tant que joueur, quoi. Mmh. A priori, ouais. C'est possible. En tout cas, à voir, mais un cas particulier très intéressant de construction en construction, c'est Knicks, parce que bah, y a cet élément de surprise de cette année, la progression de Julius Randle, on l'a évoqué assez rapidement, mais qui est quand même qui change la donne en fait de la temporalité Knicks. Donc voilà, suspense pour cette fin de saison. On leur souhaite quand même de faire les playoffs, ce serait mérité après ce parcours-là, même si ça risque de ne pas gagner grand-chose. On leur souhaite que ça se passe bien. En tout cas, voilà, on va arriver au bout de ce podcast de cette semaine. J'espère que l'exercice vous aura plu autant qu'à nous, hein, vu qu'on a explosé le chrono. On était obligé effectivement de parler de Knicks au bout d'un moment. D'ici là, ben, on vous remercie hein, d'avoir écouté le podcast de cette semaine. On vous rappelle que vous pouvez toujours nous retrouver sur les plateformes de podcast, toutes vos plateformes préférées, Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, c'est vous qui choisissez bien sûr. On est également sur YouTube quand on n'a pas de problème technique, on espère que tout ira bien cette semaine. Sur Twitter également, n'hésitez pas à nous retrouver et à débattre avec nous de cette histoire, de cette théorie d'Enix au nom de Dunk Hebdo tout simplement. Et puis voilà, la saison 2020-2021, elle approche de son terme. Là, on a les play-ins qui vont démarrer dans une quinzaine de jours maintenant. Donc on va encore avoir des choses à dire. Peut-être on va parler des Knicks. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast de Kebdo. D'ici là, portez-vous bien. Et merci Ben et merci Madiane.
Power Ranking, la semaine prochaine. Salut.
Allez, c'est dit. Salut.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.